Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Procès en appel du deuxième attentat le plus meurtrier de France, celui de Nice. 86 morts, les deux complices du terroriste de retour devant la justice. Et pour la première fois, le témoignage d'enfants rescapés. Pas d'argent, pas d'agents. Pendant les Jeux Olympiques, les policiers attendent toujours leur prime. Une nouvelle mobilisation est prévue la semaine prochaine. Et puis en sport, Paris qui écrase l'Olympique Lyonnais, ça c'est pour le football. Et Tadej Pogacar qui survole Liège-Bastogne-Liège en cyclisme.
Le procès en appel de l'attentat de Nice s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris.
Ce sont les deux proches du terroriste les plus lourdement condamnés en première instance qui ont fait appel. Ils ont écopé de 18 ans de prison pour leur complicité dans cette attaque qui a fait 86 morts, dont une quinzaine d'enfants et plus de 450 blessés. Et justement, la nouveauté, ce sont ces enfants qui vont être entendus pour la première fois. 3000 étaient présents ce jour-là. 9 devraient témoigner, Thomas Chupin avec BFM Nice Côte d'Azur.
Et parmi ses 9 enfants, Kenza, elle avait 4 ans le 14 juillet 2016.
J'ai l'impression que ça nous fait du bien, nous, de dire ce qu'on a vécu ce soir-là.
Et Kenza a des souvenirs très précis, plus précis que ceux de sa maman, dit-elle. Alors à l'audience, elle va raconter ces moments qui l'ont traumatisée.
Quand on était passé sur le camion, je pensais que maman, elle était partie avec le camion. Je me rappelle aussi quand maman s'était relevée du camion. Et ben, elle avait peur que moi, je saignais, parce que j'avais son sang sur moi, en fait.
Hassim veut lui aussi faire comprendre à quel point l'attentat a changé sa vie. Il avait 6 ans au moment de l'attaque.
À l'école aussi, il y a beaucoup de monde. J'essaye pas trop de me rapprocher des gens. J'ai peur des endroits où il y a du monde, on va dire. Comme le carnaval, j'ai pas pu y aller parce que j'avais peur aussi.
Lors du premier procès, Kimberley avait pu témoigner. Plus âgée, mais encore adolescente, elle avait 16 ans en 2016. Depuis, elle insiste, la parole, même des plus jeunes, est importante.
C'est pas parce qu'on est petit que forcément on comprend moins de choses. On comprend très bien ce qu'on a vécu. C'est important de faire comprendre aux gens. Oui, les enfants, on est traumatisés.
Et pour que ces enfants témoignent de manière naturelle, sans la pression d'une véritable salle d'audience, c'est à distance qu'ils prendront la parole en visio depuis une salle aménagée à Nice.
Vous avez entendu dans ce reportage Kenza, qui avait donc 4 ans au moment de l'attentat. Sa maman, Ager Ben Aouissi, sera tout à l'heure le témoin RMC du jour à 7h10. Elle préside aussi l'association Une Voix des Enfants, qui accompagne ces enfants, qui témoigneront donc dans ce procès en appel à Nice.
Benjamin Netanyahou promet d'augmenter la pression militaire et politique sur le Hamas, le premier ministre israélien qui s'est exprimé hier soir dans un message vidéo. Aux États-Unis, le procès de Donald Trump entre dans le vif du sujet avec une première semaine consacrée à la sélection du jury. Les procureurs de Manhattan vont présenter les charges contre l'ancien président américain accusé de paiement dissimulé pendant sa campagne de 2016 pour acheter le silence d'une ancienne star de films pornographiques. Il est 6h33 sur RMC, l'inquiétude des policiers qui seront mobilisés pendant toute la durée des Jeux Olympiques et qui n'ont toujours aucune nouvelle de leurs primes, des primes qu'on leur a promises en janvier dernier. Après leur mobilisation, le syndicat Unité appelle donc à une nouvelle journée d'action mardi 30 avril. Son secrétaire général Grégory Joron veut faire bouger les choses et vite.
Les agents sont forcément inquiets, ils ont déjà fait une croix sur leur congé et là on est en train de simplement dire on ne sait pas si vous allez réellement être payé. À un moment donné ça va, on est sur tous les fronts, donc il faut respecter les engagements qui sont pris. On ne va pas se laisser faire parce qu'ils comptent sur les policiers pour encadrer les JO et assurer la sécurité. Moi je le dis très fermement, s'il n'y a pas d'argent, il n'y aura tout simplement pas d'agents pour les JO.
Mais le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, s'est montré rassurant hier sur BFM TV.
Pour moi, ces choses étaient acquises. Voilà, je n'ai pas de raison de penser que ce ne soit pas le cas. Il y a une mobilisation qui est quand même exceptionnelle. On va avoir des policiers et des gendarmes qui, pendant 3 mois, ne partent quasiment pas en congé. Ça va être une de fortes sollicitations.
Des élus qui appellent à l'aide pour lutter contre le trafic de cigarettes de contrebande. Une dizaine de maires de Seine-Saint-Denis se rassemblent à Pantin ce soir pour demander à l'État d'agir car ce trafic provoque évidemment des nuisances, du vandalisme et même parfois de la violence. Illustration à Pantin justement avec Lucas Laubert pour RMC.
À la sortie du métro, quelques secondes suffisent pour se faire interpeller par un vendeur. Ici au carrefour des quatre chemins, les trafiquants peuvent être des dizaines au plus fort de la journée. Paquets à la main, parfois même sur des présentoirs de fortune faits de cagettes. Léa habite ici depuis plus de 50 ans.
Ils vendent comme ça, ils sont tous là. Moi je suis obligé d'aller sur la rue pour passer.
Ces nuisances durent maintenant depuis une dizaine d'années et deviennent insupportables pour les passants. D'autant qu'elles s'accompagnent aussi de violences, comme le constate cette riveraine.
Il y a des concurrences de vendeurs entre eux, avec des bagarres. Et puis il y a eu une rixe à l'arme blanche.
Alors régulièrement la police vient pour sécuriser. sécuriser les lieux.
C'est une embolée de moineaux, tout le monde part en courant. Mais ça revient aussi sec parce qu'il reste pas.
Et ceux qui sont en première ligne, ce sont les commerçants. Ils assistent impuissants à ces trafics, avec même des conséquences sur leurs affaires. Exemple avec Sophia.
On a perdu beaucoup, beaucoup de clients. Ils ont déménagé, les gens, oui. Franchement, le chiffre, il a baissé de moins 30%. Si je trouve ailleurs, franchement, je déménage.
Pour l'instant, seule la police municipale intervient au quotidien. Insuffisant pour les communes concernées qui demandent à l'État plus de forces policières, douanières et juridiques.
6h36 sur RMC. Encore une grande démonstration hier de Tadej Pogacar, vainqueur de la 110e édition de Liège-Bastogne-Liège en solitaire après avoir attaqué à 34 km de l'arrivée dans la côte de la Redoute. Une victoire sur le français Romain Bardet et sur le néerlandais Mathieu Van Der Poel. Et elle avait un goût particulier, Arnaud Souk.
Un doigt levé vers le ciel en hommage à sa belle-mère décédée il y a 2 ans, la veille de Liège-Bastogne-Liège, Tadej Pogacar a célébré avec beaucoup d'émotion ce deuxième succès après 2021 sur la doyenne des classiques. Le Slovène fatigué n'en était pas moins très heureux hier à l'arrivée.
Je courais pour la maman de ma compagne aujourd'hui. C'est si spécial après une course si longue de gagner en solitaire. C'est une victoire magnifique.
Une victoire qui le revient à égalité avec Mathieu Van Der Poel au nombre de grandes classiques, remporté 6 pour les deux champions. Même si pour Mauro Gianetti, le manager de Pogacar, il n'y a pas de doute, son poulain est bien le plus grand.
C'est quand même le seul coureur qui peut être concrète dans tous les types de courses, soit sur les pavés, les grands tours, les Ardennaises. C'est vraiment le coureur complet, le coureur qui fait rêver tout le monde.
Et le coureur qui va tenter de devenir le premier depuis Pantani en 1998 à gagner Tour d'Italie et Tour de France la même année. Déjà en forme, Pogacar espère briller sur ces deux courses en mai et en juillet.
J'espère, oui, la forme est bonne, mais je peux être encore meilleur. Une course de 3 semaines, c'est différent d'une classique, mais oui, le Tour de France est déjà dans ma tête.
Avec l'avantage du Slovène, une concurrence décimée. Vingegaard, Roglic, Evenepoel sont tous en convalescence actuellement suite à une grave chute début avril sur le Tour du Pays Basque.
En football, le PSG a écrasé Lyon 4-1 hier soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Avec 11 points d'avance en tête du classement, Paris peut espérer décrocher le titre de champion de France dès mercredi lors de son déplacement à Lorient.
Le quintet, c'est à 13h55 aujourd'hui sur l'hippodrome de Bordeaux, le Bousca.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 6, Mon Ouragan, et l'outsider, c'est le numéro 11, Paco. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Élise Dangean sur RMC, RMC Story, il est 6h38.
RMC jusqu'à 9h,
Apolline Matin.
Et dans un instant, vous avez la parole au 32-16. On lit aussi tous vos messages sur l'application RMC, c'est l'onglet Direct Studio. Il fait froid, il fait très froid ce matin, Géraldine nous l'a dit, des températures qui chutent bien en dessous des normales de saison. On est très très loin de la chaleur du début du mois, on est passé de l'été à l'hiver en une semaine et ça dure, hein, ça dure, ça va encore durer toute la semaine. Venez nous dire ce matin, chez vous, il fait combien? Venez nous le dire au 32-16 et surtout si vous êtes un travailleur de l'extérieur, si vous êtes agriculteur, venez témoigner. Comment est-ce que vous faites pour éviter la catastrophe avec des risques de gelée dans plusieurs régions ce matin et même dans les prochains jours? Comment est-ce que vous protégez vos arbres si vous êtes arboriculteur, vos vignes si vous êtes viticulteur? Venez témoigner au 32-16. Et puis à la maison, est-ce que vous avez rallumé le chauffage? On va prendre une facture d'avril un peu plus salée que d'habitude. On vous attend au 32-16 et sur l'application RMC. À tout de suite.
RMC Police Justice.
D'abord l'histoire du jour, repérée par le service police-justice d'RMC ce matin avec Lucille Pascanet. Bonjour Lucille.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Ce matin on part au tribunal où 5 responsables d'une secte sont jugés à partir d'aujourd'hui, notamment pour abus de faiblesse.
Oui, cette secte, c'est celle de la Grande Mutation. Elle a été fondée dans les années 80 par un certain Étienne Guillet, un ancien chercheur au CNRS, agrégé de biochimie notamment, qui avait fini par délaisser les sciences dures pour les sciences occultes. Il assurait avoir visité 22 planètes et être de retour sur Terre pour sauver une race élue, celle des bons êtres. Le gourou a réussi à fédérer au moins 200 fidèles autour de sa pensée, des hommes et des femmes fragiles, aux profils souvent similaires. Les premiers signalements de proches d'adeptes remonte à 2012. Leur père, leur mère, leur mari, leur sœur se coupent du reste du monde. Ils utilisent un pendule jusqu'à 8 heures par jour, puisque grâce à cet outil, ils pensent détecter les mauvais êtres de leur entourage. Mauvais êtres qui s'avèrent souvent être ceux qui dénoncent leur embrigadement, qui s'inquiètent pour eux. Les adeptes se laissent pousser les cheveux et la barbe pour les hommes, puisque les poils deviennent des antennes cosmiques entre le ciel et la terre, selon Étienne Guillet. Sur ses conseils, des cancéreux arrêtent leur chimiothérapie. Des malades chroniques se soigne avec du sérum physiologique, par exemple, avec bien sûr des conséquences dramatiques. Aujourd'hui, le gourou ne sera pas sur les bancs des prévenus puisqu'il est mort en 2018. 5 cadres de la secte vont comparaître pour abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine. Ils encourent jusqu'à 5 ans de prison.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 6h43 et vous êtes bien sur RMC.
À vous de nous dire.
Et on est avec toute l'équipe d'Apolline Matin est bien là avec Amélie Rosic.
Salut.
Bonjour Amélie, avec Manu Le Chypre et Nicolas Bonjour. Poincaré, tous les Bonjour. Deux de retour. Salut à tous les deux et avec Géraldine Demory ce matin. Parce qu'on va revenir sur cette météo plus que capricieuse. Il fait très froid ce matin. Géraldine, tu vas nous dire dans un instant si ça va durer. Combien de temps? Pour combien de temps on en a? 4 à 5 degrés sous les moyennes de saison. Fraîcheur durable et peu banale, nous dit Météo France. Et c'est un peu un choc hein, pour tout le monde après les beaux jours qu'on a connus au début du mois d'avril. On vous attend au 32-16. Il y a une inquiétude ce matin pour les agriculteurs, pour les viticulteurs, pour les arboriculteurs. Si vous êtes dans les champs ce matin, si vous travaillez dehors, venez témoigner au 32-16. Raph est déjà là, au 32-16. Bonjour Raphaël.
Bonjour toute l'équipe.
Salut Raph.
Bienvenue. Salut. À vous. Vous êtes conducteur, où est-ce que vous êtes ce matin là?
À Mâcon.
À Mâcon. Mmh. Quelle température ouais. là?
2 degrés.
2 degrés, donc pas de gelée là où vous êtes, mais on en est pas très loin. Vous avez rallumé le chauffage à la maison?
Affirmatif, ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait bizarre.
Ça fait bizarre. Comment vous vivez ça, ce retour brutal du froid?
Bah, j'aurais préféré que ce soit il y a 15 jours qu'il fasse frais, que la planète elle garde son cycle habituel, quoi. Là, ouais. C'est un peu tout déréglé.
C'est un peu tout déréglé. Ça va nous faire une facture un peu plus salée au mois d'avril.
Ah, bah, la facture, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Moi, c'était plutôt pour la planète. Moi, j'ai des petits arbustes que j'ai plantés l'autre fois et tout. Voilà, c'est comme pour les agriculteurs et les paysans. Oui. C'est la végétation qui est plus inquiétante. Hein.
Et c'est la végétation, d'autant que Géraldine, le problème, c'est pas tellement qu'il fasse froid au mois d'avril, c'est surtout qu'il a fait chaud avant.
Mais c'est exactement ça, ouais. Parce que finalement, bon, bah, ce froid un peu tardif, c'est quand même quelque chose de régulier, d'assez classique. On est très très loin hein, des records de froid qu'on peut avoir en fin avril. En revanche, on a battu à peu près 250 records de chaleur en début du mois. Et c'est ça qui est anormal et qui pose problème. Parce que finalement, la végétation, elle est beaucoup trop avancée, parce qu'il a fait chaud très tôt. Donc la végétation, elle s'est dit, ça y est, c'est le printemps, c'est l'été, c'est bon. Bon, j'arrive, les fleurs ont déjà commencé, sont déjà ouvertes, et le gel là-dessus, là, c'est dramatique, alors qu'il y a encore quelques années, la végétation était beaucoup moins avancée, donc le gel causait beaucoup moins de dégâts, et donc finalement, avec le dérèglement climatique, ça peut paraître paradoxal, mais on va avoir de plus en plus de dégâts à cause du gel, alors qu'on a moins de jours de gel dans l'année, et des gelées qui sont moins fortes.
Mmh. En tout cas, on a remis le chauffage dans le studio là et ça fait.
Remettre le chauffage. Ouais. Alors Raph, il a de la chance entre guillemets parce que manifestement il est en maison individuelle et qu'il a pu gérer son chauffage comme il veut. Mais il faut rappeler que la mi-avril, c'est la saison où dans les immeubles en général on coupe le chauffage et là il y a quand même beaucoup de copropriétés, d'immeubles, etc. dans lesquels il fait pas très chaud quand même dans les appartements.
Ouais. Et chez vous, le chauffage a été coupé?
Chez moi, ça va encore.
Non, chez moi, c'est coupé. Ouais.
C'est coupé.
Chez moi, ça va encore. Mais
Nicolas Poincaré,
je crois qu'ils ont. Rallumé surtout. Chez moi.
Alors, apparemment, c'est aussi la bataille sur certains groupes WhatsApp de copro où il y a des mails qui partent.
Mais alors, moi, vu l'âge moyen de la population.
Rallumez-nous le chauffage.
Dans ma copropriété. Plutôt plus âgé que la moyenne. Je pense qu'ils ont un pouvoir d'influence et surtout une majorité se dessine assez vite en faveur d'un chauffage rallumé.
Bah, d'autant que ça dure un petit peu. Là, on est quand même sur un épisode d'une dizaine de jours. Là, c'est vrai qu'on est dans le pic. La nuit la plus froide, ça va être même la nuit prochaine. Jusqu'à mercredi matin, on peut avoir des gelées. Mais après, ça remonte. Hein, et le week-end prochain, on repasse au-dessus des normales.
Ah. C'est dur, quoi. D'où ça vient?
Ah bah, c'est une situation qui est assez classique. En fait, on a une masse d'air qui arrive par le nord. Et donc c'est une masse d'air qui est froide qui descend sur le pays. Donc c'est une situation qui est pas complètement anormale. Encore une fois, hein, vraiment la grosse anormalité, c'était vraiment la chaleur du début du mois.
Je vais rappeler quand même, en avril, ne te découvre pas d'un.
Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. Mais c'est vrai que c'est le printemps, c'est ça, hein, les changements de température. Oui. Mais là, c'est un changement qui est quand même énorme parce qu'on est parti de très très haut.
Et je sais pas ce que vous en pensez, Raph, mais il y a un petit coup au moral quand même, je trouve, parce qu'on a quand même cru que l'été était là. On s'est tous mis en terrasse. Manger dehors, on disait la semaine dernière, ça y est, on a sorti les barbecues, etc. Je sais pas chez vous, Raph, mais et là, d'un coup, il y a quand même un coup au moral à se remettre à l'intérieur avec le chauffage, quoi.
Ah, moi, j'ai pas pris un coup. J'ai sorti le barbecue pour le week-end dernier, y a pas de problème. Par contre, moi, je vous rappelle, mercredi, je serai à Venise. Donc, il n'y a pas de problème. Hein.
Bon, alors du coup, il n'y a pas de problème, effectivement. Et là, vous roulez vers où, Raph ?
Eh ben, j'ai préparé mon camion tout à l'heure. Je vais partir en direction de Venise, justement, charger un convoi exceptionnel que je vais ramener en France. Et puis, voilà.
Oh, génial.
Bon, bah, qu'est-ce qu'on ramène de Venise ?
Ouais, c'est ce que je l'ai demandé. Ah.
Des transformateurs électriques.
Ah,
waouh, ok.
On s'attendait à un truc un peu plus...
un peu plus artistique.
C'est ça. Merci, Raph, pour votre appel.
Maintenant, pour toutes les voitures.
Ah bah oui, il en faut, oui.
Voilà.
Merci, Raph, pour votre appel.
Allez, pas de soucis, courage.
Et bonne route à vous. Soyez, soyez prudent au volant du camion 3216. On attend vos témoignages.
C'est fatigant, ces changements de température. Un céramique nous est ça, même pour le corps, c'est difficile, ouais. Hein, parce qu'on passe du chaud au froid. Bah, faut s'adapter. C'est
ça. On a cru ranger le manteau, et puis finalement, on l'a ressorti. 3216. Et on vous attend, notamment si vous êtes agriculteur, parce que c'est vrai qu'on le disait avec Raph, c'est là que le sujet est quand même le plus sérieux, parce qu'il pourrait y avoir un impact économique très important pour un certain nombre de viticulteurs, d'arboriculteurs qui craignent vraiment là pour leur culture pour ces prochaines nuits. 32-16, on en reparle tout à l'heure à 7h40, on essaiera de comprendre ce qui se passe avec le climat avec l'ingénieur Jean-Marc Jancovici qui sera mon invité. Il est 6h48.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Nicolas Poincaré à suivre, racontez-nous.
Je vous raconte l'histoire d'un maire qui jette l'éponge, un maire de la banlieue lyonnaise qui démissionne à cause des lourdeurs administratives et de l'antisémitisme.
Et puis on n'a pas osé vous en parler, mais Martin Bourdin va le faire quand même.
Oui, je vais vous parler d'un ingrédient un peu spécial, mais peut-être bientôt indispensable pour vos petits-déj.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 6h51, vous êtes bien sur RMC. Très bon réveil en ce lundi matin. Je vous donne les quelques rendez-vous à suivre ce matin. À 7h10, des enfants à la barre au procès en appel de l'attentat de Nice qui s'ouvre aujourd'hui. Sont 9 enfants à témoigner pour la toute première fois. Ce sont eux qui ont demandé à pouvoir s'exprimer. On les entendra, on sera en direct à 7h10 avec Hajer Ben Aouissi, la maman de Kenza, une rescapée qui a 11 ans aujourd'hui. Le 7h20 d'Apolline Matin tout à l'heure avec Arnaud Demange, avec Amélie Rosic. De quoi on parle ce matin ?
On parle d'une mutuelle spécialiste du secteur de l'automobile, IRP Auto, rien ne va plus.
Et avec Manu Le Chypre, qui nous rejoindra tout à l'heure à 7h40. Jean-Marc Jancovici sera avec nous, spécialiste climat, invité du jour pour tout comprendre de ce retour brutal de l'hiver. Et puis à 8h35, dans le face-à-face, Fabien Roussel sera l'invité de Neyla Latrousse.
RMC, Apolline Matin.
Racontez-nous.
Racontez-nous, Nicolas Poincaré, une histoire chaque matin. Ce matin, l'histoire de ce maire qui a jeté l'éponge.
Oui, c'est le maire de Mions, une ville de 15 000 habitants dans la banlieue lyonnaise. Il a fait savoir samedi qu'il renonçait à ses fonctions. Sur sa page Facebook, il annonce avec une grande émotion qu'il a envoyé sa lettre de démission à la préfecture et il ne dit pas pourquoi. Mais les raisons, il les a ensuite détaillées dans plusieurs interviews. C'est le cumul, dit-il, de plusieurs choses. Les lourdeurs administratives, un différend avec l'administration sur la question des logements sociaux. Il a été sanctionné et rappelé à l'ordre à plusieurs reprises pour ne pas avoir construit assez de logements sociaux. À 75 ans et après 10 ans de mandat, il ne cache pas son ras-le-bol des normes et des normes.
Mais il met aussi en avant une autre raison, l'antisémitisme auquel il doit faire face.
Oui, parce que monsieur le maire s'appelle Claude Cohen et il précise, tout le monde sait que je suis juif. Il dit avoir subi des attaques antisémites dès le jour de son élection, il y a 10 ans, mais beaucoup plus encore depuis le 7 octobre. Il évoque un homme qu'il a caricaturé sous la forme d'un rat, comme le faisaient les nazis, dit-il. Cet homme a été condamné à trois mois de prison avec sursis, mais finalement, il a bénéficié d'un non-lieu à cause d'une erreur de procédure. Il évoque aussi un autre homme qu'il a menacé de le décapiter et qui n'a reçu pour cela qu'un rappel à la loi après avoir passé seulement 2 heures chez les gendarmes. Ces deux affaires ne sont pas récentes, elles remontent à 2020, mais elles ont marqué le maire. Claude Cohen m'a indiqué hier soir qu'il a porté plainte en tout 5 fois au cours de ces 10 dernières années pour des menaces qui n'étaient pas toutes à caractère antisémite, notamment la toute dernière qui remonte au mois dernier seulement, et c'est cette violence verbale donc qu'il ne supportait plus.
Histoire édifiante hein, du côté de Lyon. Merci Nicolas Poincaré. Martin Bourdin.
RMC, Apolline Matin.
On n'a pas osé vous en parler.
Mais Martin va le faire quand même. Martin qui nous dit ce matin qu'il va falloir changer nos habitudes au petit-déj.
Effectivement. Est-ce que ça vous dit un peu de lait de chameau pour accompagner vos céréales ou vos tartines le matin?
Non.
Moi, je suis.
Pourquoi pas?
Ouais. Je bois déjà du lait d'avoine, on n'est pas loin quand même.
Bah, ouais. Lait de chameau, c'est un autre step. Nicolas Poincaré n'a pas l'air faux.
Il n'est pas chaud.
Non, pas tellement. En tout cas, on aura peut-être bientôt pas le choix d'en boire du lait de chameau, puisque c'est peut-être le lait du futur. Mmh. Et je ne vous dis pas ça parce que c'est l'année internationale des camélidés, c'est véridique, mais parce que c'est une possibilité envisagée par des scientifiques, tout ça à cause du changement climatique. En fait, les vaches ne seront plus forcément aptes à survivre dans certaines zones du monde, alors qu'on sait, pour les chameaux, bah, évidemment, la chaleur, bah, ça pose moins de problèmes. Donc, les bébêtes à bosse utilisent aussi moins de ressources pour produire le lait que les vaches. Et donc oui, il va peut-être falloir s'habituer au lait de chameau. Ce n'est pas forcément plus mal, hein. Il contient plus de vitamine C et de fer que le lait de vache, donc c'est meilleur pour la santé. Je vous parle du lait, mais ça pourrait aussi être valable pour la viande, puisque le steak de chameau pourrait à terme remplacer la viande de bœuf qu'on a l'habitude d'avoir dans nos assiettes. Là, le gap est peut-être encore plus grand pour préparer les mentalités.
Mais
à avoir
je
du
comprends
steak
pas. Qu'est-ce qui vous choque dans le lait de chameau? On boit déjà du lait de vache d'un autre animal.
Je pense que c'est juste culturel, à mon avis. C'est juste
c'est
un gap culturel.
Moi, je veux bien goûter.
Si ça a un goût spécial.
J'ai pas eu le retour sur le goût, ce que j'ai sur la j'ai pas goûté non plus, j'ai pas eu l'échantillon de lait de chameau.
Martin, t'as déconné, t'as pas fait le boulot.
Par contre, la viande de chameau, visiblement, c'est une viande un peu plus tendre, un peu plus maigre. Que la viande de bœuf.
Ça va pas plaire à Manu le Chypre.
C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des chameaux dans les prés.
Non, mais ce qu'il dit, c'est que peut-être qu'à terme, on aura des fermes de chameaux, même en France.
Oui, une fois que le sud de la France sera devenu un désert, c'est ça ?
Ouais.
D'accord. Que des bonnes nouvelles ce matin. Merci, Martin. Dans un instant, la météo, c'est pas encore le désert du Sahara. Hein. C'est plutôt le froid ce matin avec Géraldine, la météo, dans un instant, le journal de 7h. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.